Merci à tous, bonjour. Donc nous on a préparé quelques slides d'introduction parce qu'on est nuls et en marketing et en marketing local, et donc on a cherché des exemples dans notre histoire avec SoPress au départ, qui est un groupe de presse indépendant qui s'est monté. On a bossé avec Valentin Devion qui est ici pour préparer un petit peu quelques éléments et beaucoup d'exemples, beaucoup plus que des théories parce que là-dessus on n'est pas très fort. Nous depuis le début, notre histoire éditoriale, pour ceux qui nous ont pas trop vus, c'était des potes dans un garage qui ont essayé, alors c'est très masculin, trop masculin d'ailleurs au départ, avec le foot, qui se retrouvaient pour essayer de raconter le foot autrement. Il s'est avéré qu'en fait, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé un peu une sorte de centre de formation éditoriale, où finalement tout le monde passait un peu par la case foot pour aller en province, à l'étranger, à Paris, dans des pays où on n'aurait jamais mis les pieds, histoire de comprendre un peu comment fonctionnait le foot, mais pas comme on le voit à la télé, un peu comme du journalisme, avec comme point commun des idées de foot. On est passé pour les beaufs de beaucoup de choses pendant longtemps et on continue de l'être. Et puis après, on est arrivé sur le cinéma pareil, sur le vélo avec pédale pareil, une fois par an, avant le Tour de France. On travaille par exemple à des choses, des contenus pour la Fédé de tennis autour de Roland Garros Magazine. On avait créé un magazine sur le cheval qui s'appelle Dada et sur lequel on s'est planté parce que le cheval c'est ou des poney clubs très féminins ou du turf très vieux masculin et qu'au milieu on était là et donc on est tombé dans le trou. On avait du running avec Running Heroes qui nous a fait confiance des années pour raconter un peu autrement une manière de mettre un pied devant l'autre. Et puis tampon sur le rugby une fois par an avec les 6 nations. Et donc tout ça, ça fait qu'on a 2 millions de magazines par an en print au début et qui nous ont amené à avoir un ADN commun, c'est que tout le monde a passé des heures et des heures et des heures à récupérer de l'information, à taper à des portes dans plein de pays du monde, à se prendre des badges dans tous les sens, à avoir le statut du journalisme qui lui, en fonction de l'endroit où on est dans le monde, n'est pas forcément bien accueilli, et même dans les endroits où on le défend, est très mal accueilli. Donc à un moment donné, il faut essayer de montrer comment une jeune génération de gens qui veulent expliquer comment ça marche prennent le temps et à qui on donne un peu la confiance de se dire ça a du sens dans la démocratie d'avoir des gens qui parlent à côté. Donc nous, pas de marketing local, un marketing très auto-centré, du « si ça nous fait marrer, ça fera marrer les autres ». Qui est déjà un point de départ, tant par les noms que par les contenus. Mais avec ce souci de se dire encore une fois que c'est pas mal de temps en temps passer par un groupe de médias avec des gens qui vont vraiment sur le terrain, qui mettent beaucoup d'argent pour aller sur le terrain, parce qu'en fait, prendre le temps et choisir des personnes curieuses au départ, c'est le meilleur moyen d'avoir le moins d'écart possible entre ce qui se passe dans la société et ce que vous percevez. En général, dans la vraie vie, vous avez un écart énorme entre ce qui est en train d'arriver et ce que vous voyez. Et plus vous vieillissez, comme on vieillit tous, moins on voit. Parce qu'à un moment donné, il y a plein de choses, des parasites qui s'immiscent. Donc notre taf était d'aller un peu plus loin. On a juste une expérience de marketing local à notre niveau, on a eu deux. La première est le vrai foot day. Alors, ce foot racontait des histoires de foot, donc du Messi, du CR7, en veux-tu, en voilà, des histoires de coucherie, de vice, de dopage, de tout ce que vous voulez. Hein. C'est un peu rigolo le foot, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très sales à l'intérieur. Donc, d'un point de vue hollywoodien, plein d'histoires à raconter. Avec un monde du foot qui était un peu légitimement un peu flippé de se dire qu'on allait pouvoir raconter ça. Mais en revanche, il y avait un pan complet qu'on n'avait pas trop vu au départ, qui était cette classe de boomers prédits dans le club homme la plupart du temps. Et c'est pas le problème qu'ils soient, le problème c'est qu'ils vieillissaient avec tout, c'est qu'ils étaient déboutés dans leur propre famille, où à un moment donné, leur épouse prenait une place légitime qui était la sienne, et donc ça, ils n'étaient pas trop habitués. Après, il y a eu ces enfants qui arrivaient en général et qui disaient « moi je me sers de technologie et de sujets sur lesquels tu es complètement à la ramasse, si tu ne veux pas écouter, tu vas te déclasser affectivement vis-à-vis de ce que je suis en train de faire et que tu ne comprends pas ». Et puis derrière, dans le boulot, dans le meilleur des cas, ils restaient, dans le pire des cas, plomb économique, et dans un autre cas, retraité sans qu'il y ait forcément de lien. Donc le dernier truc qui leur restait, c'est président du club de foot. Donc à un moment donné, quand on est président du club de foot, on s'y attache de ouf, parce que si on n'a plus ça, on n'a plus rien. Et on a connu des présidents qui n'ont ou pas su transmettre avec un ADN égotique ou patriarcal qui les mettait dans le mur, ou qui arrivaient à transmettre, mais quand même, c'est dur de ne plus être monsieur le président. Et donc ce sujet dans le foot, on l'a vu à une vitesse folle, et donc on a vu commencer à apparaître des bureaux de clubs. Parce que dans les villages, quand vous avez fait la politique de la terre brûlée pendant 40 ans, c'est pas facile de trouver des gamins de 23 ans en disant « venez au bureau maintenant ». Mec, t'as viré mon père, tu l'as empêché d'être secrétaire général. Moi, t'as envoyé chier ma sœur en faisant pas de foot féminin. Et de mon côté, tu me demandes de pas venir au club parce que tu laisses pas rentrer les jeunes au bureau. Mais démerde-toi avec ton club. La vérité, c'est qu'il y a des villages qui ont besoin de clubs pour être un pouls de rentrée. Et donc, ça a été un bon observatoire. On a spoté un petit peu partout en France des gens qui reprenaient des clubs, 23, 24, 25, jusqu'à 30 ans. Et puis on les a sondés, 1, 2, puis 3, et puis finalement on a maintenant un réseau de 1500 clubs qui ont à peu près des bureaux repris ou décédés, c'est au choix, c'est où vous prenez le club de votre village et vous faites une fusion, une entente comme les collectivités peuvent le faire, ou vous disparaissez. Et dedans la dimension sociétale, RSE, toutes les problématiques sur lesquelles vous êtes sensible et sur lesquelles on va revenir aujourd'hui, et j'imagine qu'on revient cette semaine, sont déjà vachement présentes. Donc ça nous permet de faire une journée du foot amateur une fois par an. Notre seul actif pour nous, c'est pas trop l'argent. On arrive à trouver des partenaires et on leur met quelques bourses et quelques prix à gagner. Mais le vrai sujet, c'est comment SoFoot peut médiatiser à sa sauce, donc à notre sauce à nous, une manière de raconter ce qu'ils sont en train de faire avec une couverture digne de la Ligue des Champions. Le Grand Prix du vrai Foot Day, c'était un match, un concept accrochez-vous, c'est pas mal quand même, entre un match entre les chauves et les chevelus au profit d'une association contre le cancer, marrainée par un salon de coiffure local qui rasait gratuitement pendant un week-end. Donc le truc était déjà fou. On a ramené 2200 personnes à la main courante. Il y a eu plus de monde chez nous que tous les matchs de 5e ou 6e tour de Coupe de France réunis à moins de 100 km à la ronde. Et donc à la fin, on a eu même des pros qui sont venus jouer le match juste parce que ça les faisait kiffer de revenir dans une ambiance qui était un truc qu'ils n'avaient pas connu. Donc ça aujourd'hui, c'est un moyen, et en le traitant bien sûr, en le couvrant comme si on couvrait la Ligue des Champions. Donc avec des notes individuelles, des comptes rendus, des commentaires, avec Dédé à la buvette, le président à tel, etc. Ce type d'esprit-là, il peut paraître potache, etc. C'est le seul truc qui tient dans certains villages. Le côté engagement local. Et donc le club était pour nous un très bon endroit. Donc encore une fois, on voit le monde, on l'a vu à travers le foot. Mais c'était un bon moyen d'entrer et d'attaquer. L'autre, c'est So Good, qui lui est un média qui est né à la frontière entre les problématiques du LUL et les problématiques de Sopress, qui est comment est-ce qu'on arrive, et c'est le sujet d'aujourd'hui, à toucher localement des sujets qui intéressent les gens et pas fantasmer tout seul, ou parisien bobo venant d'ailleurs raconter une histoire qui n'intéresse que nous, un truc qui soit véritablement dans le quotidien. Ulule, c'est autre chose. On développe des actions et sur le territoire, on donne une technologie et puis un réseau qui permet de valoriser le crowdfunding, mais on a quand même besoin d'être un média. Et nous, on a besoin d'être autre chose qu'un média. Et donc, la vérité est un peu sur cette ligne de crête, quoi. On bascule tous en étant un peu trop média social, mais on touche personne, à une action de terrain, mais en même temps, on n'est pas vraiment un média. Être sexy ou être utile, c'est vraiment l'axe sur lequel tout son travail. Et So Good a travaillé ça pour avoir aujourd'hui un réseau d'éclaireurs sur le territoire, des activistes, un So Good Tour sur cet été qui va être dans cette ville et va animer des émissions de radio autour de la question de l'utilité. Donc on verra ce qui s'y passe, on verra ce que ça va faire émerger. Je pense que le fait d'être en contact, de venir, de parler, de rencontrer, est la meilleure trace d'héritage ou de trace possible qu'un média comme le nôtre peut lancer. Donc c'est aussi ça, une forme de marketing local. On n'a pas inventé des choses particulières, mais ça prend d'autant plus de sens aujourd'hui que pendant des mois, on a été privé de contact ou de lien. L'autre point, mais je reviendrai dessus après, tout à l'heure, s'il y a besoin de montrer un exemple, c'est qu'on accompagne de plus en plus des structures à côté et que d'aller dans les quartiers ou dans les différents villages, c'est un sujet un peu d'entrée importante pour nous. Le point de départ, peut-être que vous l'avez déjà couvert, je ne sais pas avant, c'était de se dire qu'aujourd'hui, sur le Covid, on a eu quand même au moment, ça c'était en avril 2020, donc on avait vraiment une demande de se dire 82% de Français qui déclarent vouloir continuer à acheter plus de produits locaux après la crise. Et d'autres qui voulaient consommer différemment. Alors je pense que ces enquêtes-là au mois d'avril 2020, nous tous, on répond en fonction du stress du moment ou de la visibilité du moment. Donc en fait, ces écarts-types-là sont à corriger statistiquement pour se dire en gros qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai en revanche, c'est l'après. Et l'après-Covid, sortie de Covid, 113% de livraison en plus de produits locaux et 331% pour le choix d'un producteur local au cours de la même période. Traduction, il y a quand même eu quelque chose assez vite qui était de l'ordre de la proximité. Et ça, on ne l'avait pas trop vu, parce qu'on avait quand même tendance à oublier de se dire que la mobilité, on parle beaucoup de mobilité et de faciliter les déplacements d'est en ouest ou ce périmètre métrophérique ou d'essayer de traverser les territoires. Peut-être que la richesse qu'on peut avoir près de chez soi et le temps qu'on va passer avec sa famille par rapport à un temps qui est un temps de transport, c'est un arbitrage qu'on fait tous au quotidien. Et aujourd'hui, c'est ça le sujet, et notamment dans notre pays, parce que, pour vous rappeler juste un ordre d'idée, c'est pour ça qu'on traite la France très différemment et qu'on doit traiter la France un peu différemment des autres pays, pas parce qu'on est formidable, hein, parce que juste on a 83 000 villes dans toute l'Europe, 25 pays de l'Union européenne, 83, 84 000 villes, il y en a 36 000 chez nous. On a 40-45% des villes d'Europe chez nous. On est un territoire ultra fragmenté, ça c'était la trace de l'ensemble des points consistant à avoir un périmètre, une mairie, un conseil municipal, des services administratifs associés. Régulièrement, on a le débat de se dire est-ce que c'est une question de fonction publique, qu'on met trop, etc. C'est ça qui tient le pays, c'est les associations qui tiennent ce pays, à savoir en gros un maillage très très dense qui fait qu'à moins de 1, 2, 3 km de là où vous êtes, vous avez une gamme de services publics, de liens sociaux et après de commerciaux qui permettent finalement d'être finalement pas très loin de chez vous. Mais pour autant, on a ce truc de voyager, de bouger, d'aller un peu plus loin, de chercher des pôles urbains, de revenir, d'aller à la campagne. Grande mobilité. On n'est pas les Américains, mais on bouge beaucoup quand même. Mais par contre, ce sujet-là est central parce qu'au moment où vous allez devoir intervenir, on va le voir avec les autres exemples après. Vous devez choisir le lieu d'intervention. Et le choix du périmètre, chez nous, c'est un enfer. Est-ce qu'on bosse au niveau de la région, mais qui politiquement peut ne pas avoir d'appui au niveau local? Est-ce que c'est au niveau de la communauté de communes qu'on peut avoir des interlocuteurs pour trouver ou un incubateur de boîtes ou des potentiels de développement d'applications? Est-ce que c'est au niveau d'un village? Et des villages, on en a peut-être 80% qui font moins de 3500 habitants. Est-ce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on se situe quand on a vocation à faire un business national, régional ou européen? Donc ce truc d'arbitrage et de choix, aujourd'hui, c'est le casse-tête numéro 1. Toutes les campagnes qu'on lance au départ, l'idée est géniale et ça se balance. En général, c'est un flop ou un four. Je ne parle pas de nous, c'est un nous générique. Beaucoup de campagnes qui sont lancées tombent dans l'escarcelle du « j'ai pas choisi le bon périmètre pour intervenir ». Et ça, cet arbitrage-là, il est clé dans un pays comme le nôtre. Je ne vais pas dire qu'il y a un retour du phalanstère qui était cette idée utopique d'avoir quasiment une sorte de lieu de vie où on retrouve tout. Mais aujourd'hui, en vrai, les périmètres dans la manière dont on vit, le confinement l'a montré, Et ça continuait, c'était le cas avant, mais on ne se le disait pas. On s'investit vachement à 500, 600 mètres autour de l'endroit où on bosse. Pareil, de l'endroit où on vit, le reste, on est en translation de ouf. On passe. En temps, vous avez des potes, hein, mais vous n'avez pas tutoyé la caisse d'allocation familiale, la poste, le commerce du coin, le mec qui gère le haut-à-côte. Ça va se faire près de chez vous ou ça va se faire près de là où vous bossez. Et ce truc d'investissement, finalement, il est un peu clé quand même. Parce que on peut théoriser le monde en se disant les comportements vont être différents. En vrai, de plus en plus, la question de la proximité, elle est clé dans la manière d'aborder ne serait-ce que l'offre et la manière de la diffuser et de la distribuer. Après, un autre niveau au niveau mondial, c'est ce sujet des cités-états. C'est-à-dire qu'on a entre Dubaï, Hong Kong, Singapour et certaines villes à Sao Paulo, on voit déjà des démarcations quasiment sociologiques se dessiner avec des murs où les questions de porosité sociale sont de plus en plus faibles parce qu'on a besoin de mettre des condominiums un peu partout. Bah, cette lecture-là, elle est en train de se populariser. C'est vrai aussi à Paris. Hein. On a des ghettos de pauvres, des ghettos de riches, des gens qui se croisent. Il n'y a pas de murs, mais pour autant, la mixité, elle ne se fait pas parce que c'est très, très codifié et que c'est bien organisé pour que ça ne se croise pas. Ce qui, en général, fait l'affaiblissement des villes, de ne pas avoir, justement, en fonction de la composition des gens qui la composent, suffisamment de rencontres et de points. Donc aujourd'hui, pareil, ce qu'on a au niveau, ce qu'on retrouve au niveau de village ou de cité ou de quartier, on peut le retrouver au niveau international sur les questions de savoir si on connaît le périmètre où on intervient d'un point de vue réglementaire, religieux, communautaire, culturel, politique ou économique. Tout ça pour dire qu'au niveau, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le marketing local, c'est donc à chacun, en fonction de nos business respectifs ou des activités sur lesquelles on intervient, de se dire c'est quoi mon périmètre. En général, ce qui ne bouge pas trop, c'est vrai que c'est cette histoire. Alors la ville du quart d'heure était un sujet. L'autre sujet, c'est vrai que c'est ces informations relatives à la question du temps passé dans les transports. Alors, ça paraît neutre, mais on sait tous que depuis 2020, on se pose cette question à titre individuel et qu'on arbitre beaucoup plus fort qu'on arbitrait il y a 2-3 ans. On décide de trucs, je ne sais pas. On décide de prendre un vélo, on décide de plus prendre le bus, on décide de vendre sa caisse, on décide de déménager, on décide de changer de boulot. Là, il y a eu plus de 75% de cadres aux États-Unis qui ont changé de taf l'année dernière sur des postes très rémunérés. En traduction, la question de l'appât du gain ne suffit pas, en fait. La question d'autres problématiques arrivent en compte. Et si on ne se dit pas que les boîtes vont s'adapter à des questions qui touchent des domaines sur lesquels elles n'ont pas la main, à savoir santé, bien-être, famille, etc., on rate juste la manière dont les comportements qu'on est en train de dessiner sont en train de se produire, de se faire et se développer. Donc ce sujet-là, il est crucial. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas du tout abordé les questions sur lesquelles d'autres parlent mieux que moi, c'est-à-dire des questions technologiques, des questions programmatiques, des questions d'outils. Parce qu'au départ, la photographie de qui on a en face de nous, pour moi, dans les gens avec qui on travaille, on se rend compte que pour beaucoup, la photo, elle est très, très floue. On va voir le politique ou la représentation en se disant bah, « c'est du fonctionnariat électif français, ça c'est un nid en merde pour l'entrepreneur ». Mais en vérité, c'est comme ça quand même que nos vies se structurent et qu'en les comprenant pas au départ, on se prive sincèrement de relais d'influence très 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 puissants et très très forts à plein d'endroits. Voilà, donc aujourd'hui, sur les quelques sujets qui nous intéressaient un peu avec, alors je prends l'exemple de OpenNAO, NIRMI, qui était sur Google, entre l'évolution un peu de l'utilisation, les recherches sur Google, effectivement, de certains mots, vont être corrélées à la question du local. Idem, je ne sais pas pour vous, moi régulièrement, effectivement, sur Google Maps, il y a un sujet de paramétrage de filtres, etc., de proximité. Avant, j'aurais pu me dire, je vais chercher dans Paris où ça se trouve et j'irai bouger, mais de moins en moins. Il y a un sujet de réduction du temps passé pour essayer de se déplacer, qui, pour le cas d'un néo-parisien, est un peu le sujet. Et puis, l'autre point, c'est effectivement de se dire, on le disait au début, de quoi le marketing social local, pardon, est-il le nom ? C'est véritablement la question de ce qu'on va chercher. Et pour l'instant, entre utilité... Je dis connivence culturelle parce que c'est un peu ce qui nous rapproche en sortant des questions communautaires. C'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est à 200-300 mètres que là où j'habite ou que je travaille dans un quartier va avoir à peu près les mêmes problématiques que les miennes. Bah, ça, c'est de la sensibilité territoriale. On voit apparaître effectivement une appli comme Smile, qui est le premier réseau social de voisinage où les questions d'entraide, de vente, de cession de droits, de services, apparemment, comme Indigo avait pu le faire aussi sur des logiques de gains, etc. Tout ça, tout le monde travaille autour de ça. On aura peut-être une solution française qui sortira ou pas. La réalité, c'est que la question de la mutualisation de services et d'utilité de proximité, c'est une valeur ajoutée dans laquelle ces micro-mouvements et micro-marges est l'avenir de l'Amazon sociale de demain. C'est-à-dire comment on fait du volume sur un sujet et un périmètre avec la même méthode, mais qui pourtant va changer en termes de territoire à 2 km de là où on habite. On commence à voir fleurir effectivement des communications locales. Hitch a commencé en Seine-Saint-Denis à faire des messages, c'est pas sortez le soir à Paris, c'est se dire le Paris-Saint-Denis, c'est le prix d'un kebab. Ça, on peut le mettre que à Argenteuil, que à Saint-Denis, que à Pantin, à Aubervilliers, parce que ça a parlé à tout le monde. Parce qu'en vérité, quand on habite là, on sait très bien ce que ça veut dire en comparaison de prix, et c'est une com qui est très spécifique, mais qui n'est pas locale d'arrondissement de quartier. Elle est culturelle, de se dire que pour ceux qui n'ont jamais vécu en dehors de Paris, ils ne savent pas ce que c'est que de prendre le dernier RER ou de se dire qu'il y a un temps, c'est un effort, enfin, c'est un voyage d'aller s'organiser pour pouvoir aller à Paris et revenir dans les bons temps et revenir de l'autre côté. Puma est intervenu aussi à Marseille avec beaucoup d'exemples autour du lancement du partenariat entre Puma et l'OM. Et donc quand vous arrivez, vous êtes Puma, que vous ramenez des cadres parisiens de la tech et que vous avez supporté l'OM, bon, bah, culturellement, en général, ça pète. Alors, au-delà des carjacking, hijacking et autres problèmes que Marseille peut générer régulièrement autour du foot, il y avait ces campagnes de pub qui, effectivement, en général, bah, comparaient la coupe aux deux oreilles de Ligue des Champions avec les deux oreilles de Puma, essayer de faire des campagnes d'affichage sauvage où il y avait une tentative de rebond et de reflet d'une sensibilité de la vanne marseillaise avec des points qui étaient des points à la fois et de Puma et du foot marseillais permettant de créer un lien. C'est super dur de débarquer en colon culturel en disant que ce n'est pas le cas, parce qu'en vérité, on sait que c'est le cas. Qu'est-ce que fera Puma dans 5 ans si le contrat s'arrête? Ils feront autre chose. Donc, ils ne sont pas là non plus pour 40 ans et personne n'est là pour très longtemps. Et donc, ce qui veut dire, c'est de montrer aussi que ce n'est pas un jeu de dupes. Le monde du foot a sa naïveté assumée et tout le monde sait pourquoi ils sont là. Mais c'est un peu de trouver juste les points de contact et d'ancrage qui permettent de discuter, quoi. Également la question, alors ça c'était un service qu'on va, j'en ai proposé à plusieurs collectivités locales, mais à chaque fois il y a un problème avec ça, c'est de se dire bah, on nettoie l'asphalte avec du Karcher puis on met des pochoirs et donc réapparaissent la question du logo dessus, c'est pas de la peinture. Dis-moi, j'ai juste nettoyé la rue, ah, il s'avère qu'il y avait un pochoir au moment où j'ai karchérisé la rue, je suis désolé, mais finalement ça c'est beaucoup plus, ça passe aujourd'hui légalement beaucoup plus que la question de la peinture et la question du revêtement que vous allez rajouter en plus, une forme de marketing street local. Encore une fois, reste à savoir quel message vous allez porter là-dessus. C'est la nature du message qui va déterminer si le fait que vous avez karchérisé la rue et c'est une marque mot valise qui a sa connotation en France permet d'être compris ou pas compris, quoi. Les autres sujets qu'on a, alors ça, c'était, je pense que pas beaucoup de gens sont un peu trop au courant, et c'est vrai que ça vient du monde du sport spécifiquement pour les deux. Le premier, c'est le club du Benfica de Lisbonne, qui est un club qui, historiquement, pour des raisons de diaspora dans plein de pays du monde, a organisé ce qu'ils appellent les Casa do Benfica, qui sont des maisons posées dans le monde entier. Il y en a une à Tourcoing, il y en a une à Montreuil. Vous rentrez, vous êtes à Lisbonne. Ils ont codifié la maison de telle manière que vous avez des spécialités locales, des résultats de l'équipe. Mais on n'est pas sur des petits volumes, hein. On est quand même sur 250 maisons dans le monde entier. Traduction, on a des traces finalement culturelles de choses qui ont demandé de l'investissement dans de la pierre, mais avec une capacité de la communauté et des Portugais de se mobiliser quand ils sont en dehors de leur pays, très très forte, qui fait qu'aujourd'hui, c'est des lieux de rencontre en tout genre, économiques, culturels, et qui sont des lieux intéressants, sur lesquels lieux logiques, sur lesquels Paris 2024 aussi a réfléchi, mais comme le ministère de la Culture, le ministère des Sports avant aussi, c'est-à-dire est-ce que les MJC, c'est encore des lieux de rencontre pour les jeunes? Est-ce qu'une maison olympique dans chaque département, chaque ville, ça fait sens? Bon, bah, Terre de Jeux a le même souci que la carte de France que je vous présentais tout à l'heure. C'est comment on labellise des collectivités locales qui veulent tous avoir leur part des JO pour pouvoir dire au niveau local, je suis un peu sexy, j'ai une politique sportive, sport et société, j'ai envie de bouger. Avec une vraie équation de se dire, mais jusqu'à quel grain je vais? Est-ce que vraiment je vais signer avec un village de 1200 qui va me prendre 2 jours de négo en contrat alors que si je calcule bien et que j'en rentre 20 par semaine? Le jour de la cérémonie d'ouverture, j'aurais couvert que 15% des villes en France. À ce sujet-là, c'est une équation dans laquelle tout le monde se lance sans avoir mesuré ce que ça veut dire que d'être en France par rapport à ce type de découpage local et qui, en général, est très personnalisé et très sur mesure. Les deux autres points dont je voulais vous parler, je ne sais pas si c'est les startups que vous connaissez un peu. La première que j'ai rencontrée, moi, il y a 3 ans, qui, je ne sais pas comment elle se développera, mais qui s'appelle Local Hero, qui a une idée de se dire, bon, aujourd'hui, les Français sont plutôt généreux pour plein d'actions, mais à la suite du Covid, ils aimeraient investir un peu plus et donner du temps et des moyens à des assos près de chez eux, sauf qu'une assos près de chez soi qui a un projet, on ne sait pas où aller chercher. Vous allez à la maison des assos, ils n'auront peut-être pas le temps. Vous allez vous continuer des amis d'amis, mais vous allez donner de l'argent à des amis, mais sans savoir si l'assos, elle tourne vraiment bien ou pas. Et donc, ils ont commencé avec des QR codes et quelques bornes mis dans, chez des commerçants, finalement, des bornes qui permettent de présenter tous les projets du quartier sur lesquels vous pourriez, avec très rapidement, donner 2 euros, 3 euros, 4 euros. Alors après, les limites, c'est... on va pas foutre des bandes partout, la bande c'est lourd, est-ce que le QR code c'est d'avenir ou ça ne l'est pas? Mais la logique de se dire qu'on passe par des commerçants locaux pour pouvoir justement donner aux assos du coin, ça fait vachement sens. Moi je ne comprenais pas au départ pourquoi les commerçants acceptaient les bornes en disant bah, pff, les mecs ils vont avoir des queues peut-être de gens sur un projet étudiant qui débarque, qui vont chez eux pas pour acheter. Mais oui, ils sont super contents de se dire que la hype du moment, du jour ou de la soirée c'est chez eux. Et donc personne n'a jamais refusé à prendre les bornes en se disant ça me permet de générer du trafic local à des niveaux d'arrondissement. Enfin, je dis on est même en dessous l'arrondissement, au niveau du quartier, à des choses un peu plus dense, quoi. Voilà. Bon, voilà un peu, c'était un peu le seul sujet. S'il y a des questions-réponses, je ne sais pas si c'est le moment, parce qu'après il y a des échanges et on a pris un peu de retard sur le sujet, mais l'idée c'est, enfin moi j'ai pris un peu plus au-delà de ce que j'avais prévu. Mais le sujet majeur là-dessus pour nous, au niveau Sopress, c'est-à-dire qu'on a passé suffisamment de temps à aller dans des contrées très différentes, à essayer de percevoir le plus rapidement possible entre les jeunes journalistes qui viennent chez nous et ce qui remonte comme compréhension de ce qui se passe, une lecture qui nous permet en général de se dire que le choix du périmètre, la connaissance des publics avec lesquels on va travailler, ce n'est pas des gens très différents de nous. Et donc, par contre, nous, on ne voit pas trop, à certaines zones, notamment urbaines et surcentralisées à Paris par rapport à d'autres pays, de se dire qu'il y a des conceptions de ce que c'est que le territoire et ce que c'est qu'un marketing local qui induisent des éléments culturels, humoristiques, sensibles, intimes, qui vont bien au-delà de la question de l'outil. Voilà. Et comme d'autres parlent beaucoup mieux de l'outil, l'idée des deux compléments, c'est qu'on puisse se dire que la vérité elle est un peu entre les deux et que ces bascules-là feront que bah, il y a des solutions globales qui pensent l'outil à un niveau local qui sont très efficaces, mais il manquera toujours un peu de sève ou de subtilité ou d'humanité permettant de se dire mais comment vous pouvez nous aider à trouver les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes images, les bons sons, permettant de toucher au cœur et pas qu'à la tête. Cette équation-là, c'est un peu une équation française, mais on aura le temps d'en reparler.